Bon, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
C'est la compétition sportive la plus regardée dans le monde juste après les Jeux Olympiques d'été et la Coupe du Monde. Il s'agit bien sûr du Tour de France. Dimanche prochain sur les Champs-Élysées, les coureurs boucleront la 105e édition de cette compétition devenue mythique. Des grandes plaines de la Beauce jusqu'aux cols les plus escarpés, des petits villages de nos campagnes jusqu'aux majestueux Champs-Élysées. Chaque année, la Grande Boucle nous envoie ses cartes postales et les affaires de dopage qui ternissent l'image de la compétition aujourd'hui ne feront pas oublier des époques plus anciennes, des histoires riches en émotions, pleines de joie, de drames, d'imprévus et de suspense insoutenables. Des noms qui sont encore dans toutes les têtes et dans toutes les mémoires. Anquetil, Poulidor, Merckx ou encore Hino. Aujourd'hui, nous remontons l'histoire de la Grande Boucle en compagnie de deux spécialistes. Tous deux ont commencé et ont commenté et accompagné le Tour de France pendant plusieurs décennies. Jean-Paul Olivier, dit Polo la Science, qui publie Le Tour de France, un beau roman, une belle histoire, aux éditions Robert Laffont, et Daniel Potra qui raconte les plus belles histoires du Tour de France aux éditions Mareuil.
Mais actuellement, tout le stade attend l'arrivée sous le tunnel de Jacques Anquetil. Jacques Anquetil effectue maintenant le virage, il prend la ligne opposée, il passe devant la tribune Tour de France, le public ovationne. Voici la ligne droite, la fin du tour, les 4465 km vont être terminés dans quelques instants. Attention, et top ! Il vient de franchir la ligne et il ne nous reste plus maintenant qu'à attendre la décision, non pas des êtres humains, mais des mécaniques.
Alors oui, 7 minutes et 10 secondes pour Jacques Anquetil, à vous.
Eh bien, voici les temps qui sont sur le tableau. Premier Jacques Anquetil, les 27 km 500 en 37 minutes 10 secondes. Deuxième, Rudy Altic.
Allô Jean-Bruno.
Allô oui.
Allô Jean-Bruno, bon, je vous reprends l'antenne parce que Raymond Poulidor ne sait pas encore qu'il a perdu le Tour de France. Raymond Poulidor, c'est Jacques qui gagne.
Ben oui, on me disait que j'avais gagné.
C'était formidable ce que vous avez fait tous les deux, formidable.
Alors Raymond, comment vous réagissez?
Ben je... On m'avait annoncé que j'avais gagné, mais enfin, maintenant on m'annonce que je perds, alors évidemment je suis très déçu, mais j'ai fait tout mon possible.
Tous les ans on regarde le Tour de France, sur les écrans de la télé, dans l'impatience, on guette le maillot jaune.
Et nous étions en 1964, hein, vous officiez déjà à l'époque sur France Inter, Daniel Potra, on vous a entendu dans ce court extrait qui était un petit peu dans le brouhaha, dans la panique de l'arrivée, mais quand même avec cette déception incroyable pour Poulidor qui se croyait être arrivé premier et qui apprend à votre micro qu'il n'est que deuxième. Ce tour de 1964 a été qualifié par vous et par beaucoup de connaisseurs comme le tour du siècle.
Oui, c'est un scoop dont je me serais bien passé par rapport à Raymond Poulidor. Et je suis encore le Tour de France régulièrement et tous les matins on se retrouve ensemble et souvent il lui arrive de me dire « Tu m'as fait vivre la minute la plus épouvantable de toute ma carrière ». Mais finalement, je regrette pas parce que si j'avais gagné un Tour de France, on m'aurait oublié alors qu'aujourd'hui encore, je reste le plus populaire de tous.
Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé lors de ce Tour 64? Comment se fait-il que Poulidor, qui se voyait premier, est finalement arrivé deuxième?
Ben vous savez, j'avais fait un truc un peu spécial ce jour-là sur les ondes de France Inter. On n'avait pas de GPS, hein. On n'avait pas d'écart qui nous était communiqué régulièrement entre les deux favoris de ce Tour de France, les deux derniers protagonistes, Jacques Anquetil qui n'avait que 14 secondes d'avance sur Raymond Poulidor au classement général au départ de cette étape contre la montre, Versailles-Paris, 27-28 kilomètres. Et donc, moi, j'avais fait le reportage de cette étape contre la montre dans l'avion qui nous servait de relais pour transmettre nos émissions, un Pilatus porteur qui volait à 500 mètres d'altitude, pas très vite. Et je pouvais en permanence, quand Poulidor passait devant une église, je pouvais repérer Anquetil qui arrivait 3 minutes ou un peu moins après, etc. Et puis, j'ai repris ma moto à Ville-la-Coublay, j'ai foncé vers le Parc des Princes. Et là, j'ai fait l'écart à l'entrée du Parc des Princes. Et là, j'ai vu que Anquetil gagnait cette étape, alors que quelques kilomètres avant, dans la Côte des Gardes, Raymond Poulidor était pratiquement revenu à égalité avec lui. Donc, j'ai couru, j'ai traversé le Parc des Princes, j'ai interrompu Jean Bruno, et puis je suis venu annoncer à Poulidor, qui était entouré par une dizaine de personnes, là. Et qui lui disait « t'as gagné », lui, il était déjà tout heureux, et voilà.
Ah, la déception, hein, la déception qu'il a dû ressentir. Et en plus, il avait joué de malchance, parce que à une étape précédente, je crois, il était arrivé en tête, Et il a oublié de faire le tour du stade dans lequel il arrivait. Et du coup, il s'est fait griller la politesse.
Il a raté plein d'occasions, mais la première occasion ratée, oui, ça a été à Monaco. Ouais. L'arrivée se fait comme sur toutes les pistes. On doit faire la distance jusqu'à la ligne d'arrivée, plus un tour. Et Raymond Poulidor a sprinté. Il a passé la ligne d'arrivée en premier. Il a cru que c'était terminé. Il avait oublié qu'il y avait encore un tour. Jacques Anquetil le savait. Et Jacques Anquetil est parti. Raymond Poulidor a essayé de revenir. Mais c'est Jacques Anquetil qui a pris la minute de bonification. Et à l'arrivée, il y avait moins d'une minute. S'il l'avait gagné ce jour-là, il aurait peut-être gagné le Tour de France. Mais il l'a perdu ensuite encore dans les Pyrénées. Il l'a perdu contre la montre avec des malchances, etc. Puis il l'a perdu dans le Puy-de-Dôme également. Donc, mais c'était un tour à rebondissement. Il se passait tous les jours quelque chose, c'était fantastique pour les reporters.
Pour rester sur Raymond Poulidor, Jean-Paul Olivier, cette légende de Poulidor, l'éternel deuxième, elle vient de là justement, de ce Tour 64, où elle a une réalité, il était régulièrement deuxième.
Oui, elle vient un peu de là, mais il faut dire que ces échecs, il les cherchait un petit peu. Quand Daniel parle de Monaco, un coureur professionnel digne de ce nom ne peut pas ignorer que c'est la distance plus un tour sur un vélodrome. C'est inadmissible.
Et puis, une sorte d'acte manqué, c'est ça que vous dites, un acte manqué, il se plaisait à rater au dernier moment, la dernière marche.
Il se plaisait pas, non, mais il était ainsi fait, vous savez, il se satisfaisait de peu de choses, Poulidor. Il disait, je suis dans le Tour de France, mais quand je vois ce que j'ai été, quand je vois que j'avais un sarrau beaucoup plus usagé que les autres à l'école, quand j'avais un cartable très usé, etc. Il était content d'être dans le Tour de France. C'était son rêve, quelque part. Alors qu'Anquetil, c'était totalement autre chose. Mmh. Et puis Anquetil était excellent contre la montre, ce qui, évidemment, était un atout majeur.
Oui, mais en 64, Poulidor avait fait des progrès. Il était revenu pratiquement à égalité avec Jacques Anquetil, sauf dans la dernière étape. Ouais. Voilà.
Alors, dans cette année 64, quand vous dites qu'il se passait quelque chose tous les jours, parfois, c'était dramatique. C'est aussi en 64 que le plus grand drame qui a frappé le Tour de France est survenu.
Hélas, je sais pas. Non, vous avez des. Non, je crois que vous aviez le sonore.
Non. C'était pour savoir lequel des deux.
Ouais. Non, ben j'étais là. Il était midi et demi à peu près. Comme d'habitude, on quittait à ce moment-là après l'émission de midi et demi. On partait avec mon motard vers l'avant manger une omelette salade. Et puis. On roulait à 50 à l'heure, 60 à l'heure, et d'un seul coup, un camion citerne nous double à 80 km à l'heure, et 2 km après, on arrive dans ce virage à Port de Couze. C'était l'étape Bordeaux-Brive, je crois. Oui. Et bien, c'est le camion qui est entré dans la foule. Et quand je suis arrivé, je peux même pas raconter quoi. Il y a pas de mots pour dire le spectacle horrible avec des membres qui flottaient à la surface de l'eau, l'eau qui était toute rouge, etc. Bon, c'était le drame le plus terrible de toute l'histoire du Tour.
Et malgré cet incident, le Tour n'a pas été interrompu, Jean-Paul Olivier ?
Non, pas du tout. Oh, c'est vrai ce que dit Daniel. Moi, j'étais pas dans ce tour-là. J'étais déjà journaliste, mais j'étais pas dans ce tour-là. Mais effectivement, ce que m'ont raconté les Darrigade, Évrard, Tanguetil, etc., est tout à fait insoutenable, quoi.
Les seuls événements qui ont interrompu le tour, en tout cas qui ont fait que le tour n'a pas eu lieu, ce sont les guerres, Première Guerre et Seconde Guerre mondiale.
Absolument. 39-45 et 14-18. Ouais. Et le tour a eu du mal un petit peu à reprendre en 47 parce que d'abord, le Tour de France était organisé par un journal, le journal L'Auto, qui est passé dans la fosse commune des journaux de collaboration. Et donc, il a fallu reformer quelque chose. Alors, on a ressorti l'équipe et Élan, et c'était pas simple parce qu'il y avait une presse communiste en face. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Quoi.
C'est en 1903 que le Tour est pour la première fois voit le jour justement. Ce journal L'Auto crée le Tour pour un peu se faire de la publicité, c'est ça l'idée ?
Il fallait à tout prix faire de la publicité parce que il y avait encore un journal qui s'appelait Le Vélo qui marquait des points, qui vendait à 80 000 exemplaires alors que L'Auto n'en était qu'à une vingtaine de mille, 20 000 exemplaires. Alors il fallait à tout prix, et c'est là où Géo Lefèvre pense un peu Tour de France, parce que Henri Desgranges lui dit, mais écoutez, Géo Lefebvre, qui était le chef de la rubrique cycliste, lui dit, mais il faut faire quelque chose, il faut battre Giffard, qui était le rédacteur en chef en face, il faut le battre, il faut tout faire, on réclame des coureurs à droite du Rhône et à gauche du Rhône, parce qu'il y avait, la course Paris-Marseille, il faut faire quelque chose. Et c'est là que Géo Lefebvre pense à ce truc auquel il n'aurait jamais pensé, d'ailleurs. Il dit, oui, on pourrait faire le tour de la France, le Tour de France.
Ouais. Il y avait l'idée de faire quand même une grande compétition, hein, une compétition qui marque les esprits. Ça a tout de suite pris, ce Tour de France, où il a fallu du temps pour que ça devienne l'institution que c'est aujourd'hui.
Ça n'a pas été simple. Ça a été assez vite quand même. Ouais. Mais ça n'a pas été simple parce que il fallait que les coureurs soient présents. Or, c'était des gens qui avaient une profession, qui avaient quelque chose. Il fallait leur donner des prix importants quand même, malgré tout, parce qu'ils quittaient leur emploi, etc. Ouais. Et le Tour de France est parti de Montgeron parce que c'était les routes propices à la première étape Paris-Lyon. Et le Tour part avec 16 minutes de retard. 16 minutes de retard parce que celui qui donnait le départ, qui s'appelait Monsieur Abran, qui était donc l'homme au drapeau, eh bien, c'était laissé aller à quelques petites habitudes d'intempérance. Il avait bu beaucoup de coco, vous savez, c'était la boisson à l'époque, une boisson anisée à l'époque, et puis il s'était laissé aller, et puis quand il dit, oh là là, c'est l'heure, et donc le tour est parti quelque part en état d'ivresse. Si
ça commençait de façon assez amateur, hein, quand même, on va dire. Ça s'est plus professionnalisé ensuite. Qui décide du parcours? D'ailleurs, le premier parcours était plus court qu'aujourd'hui, hein, je crois.
C'est-à-dire qu'il y avait 6 étapes, mais ça n'épousait pas... ça a épousé une partie de la France, mais ça n'épousait pas l'école. On n'était pas encore dans l'école. Ouais. On était...
L'école, ça passait par les grandes villes
c'était
de France.
C'était Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes et Nantes-Paris. Voilà, c'était les 6 étapes des premiers Tours de France.
Hein. Et aujourd'hui, on le voit, hein, chaque année, on découvre le nouveau circuit, le nouveau parcours.
Cette année, c'était particulièrement bizarre.
C'est ça.
Avec deux transferts aériens.
Ouais. Alors, ça paraît un peu... Qui décide, en fait, du Tour de France chaque année?
C'est la société du Tour, c'est sous la direction de Christian Prudhomme, c'est Gouvenou, un ancien coureur, qui est le responsable de ce parcours. Ils essaient de l'équilibrer. Cette année, par exemple, il était très bien ce parcours. Il y avait une première semaine en Bretagne, c'est le pays du vélo, c'est le pays de Jean-Paul. Ouais. Donc, une semaine en Bretagne avec des routes qui n'étaient pas faciles et où il aurait dû y avoir de la bagarre. Mais il n'y en a pas eu. Ouais. Ensuite, il y avait un petit Paris-Roubaix. C'était génial. Là, il s'est passé des choses. Ensuite, on partait directement dans les Alpes. Mmh. Et dans les Alpes, il y a des coureurs qui se disaient « Oui, mais finalement, la troisième semaine dans les Pyrénées va être décisive, donc on se retient un petit peu. » Mais en fait, je vais vous dire, c'est que cette année, il ne faut pas critiquer les coureurs, parce que ce qui s'est passé, c'est que rarement j'ai connu un Tour de France aussi chaud. Et c'est pour ça que les coureurs n'ont pas pu se battre, parce qu'ils étaient vraiment dans des conditions climatiques très très dur, et il ne faut pas leur en vouloir s'ils se sont pas battus autant qu'on l'aurait souhaité.
Ne faisons pas trop le bilan du Tour de France de cette année, parce que c'est justement ce que fera Pierre Veil ce soir dans Le Téléphone Sonne, donc on va pas complètement lui couper l'herbe sous le pied. Les villages, les maires qui décident candidatent pour recevoir le Tour de France, ils sont nombreux, Jean-Paul Olivier, on se bouscule pour faire partie du circuit.
Ben, tout d'abord, il y a les étapes, il y a la création des étapes. Alors on va puisque Daniel dit que c'est mon pays, la Bretagne, il a raison, on part par exemple de Lorient à Quimper. Bon, si vous allez de Lorient à Quimper, eh bien vous aurez invariablement des villes, des localités. Et là, les localités sont heureuses de voir le Tour passer par chez elles. Ouais. Ouais, c'était fantastique, c'est fantastique, quoi. Ça, c'est la fête permanente.
Sauf en 1982, hein, c'est ce que vous racontez, Jean-Paul Olivier. Un curé qui s'oppose au passage du Tour de France dans sa commune. Pour quelle raison ?
Il faut dire que c'est l'une des plus belles communes de France. Hein. Ouais. C'est Locronan, donc c'est très joli. Il y a à Locronan, il y a chaque année, mais plus précisément tous les 4 ans, une grande fête religieuse qui s'appelle la Grande Troménie. et la grande Tromini arrivait le jour où le Tour passait par le Cronan. Et le curé avait dit non, le Tour de France ne passera pas par le Cronan parce que j'aurais à ce moment-là les gens à l'église, j'aurais les gens aux vêpres. Non, non, il n'en est pas question. Il a fallu déléguer Jacques Godet qui vienne voir le fameux curé de le Cronan qui s'appelait Dilasserre, ouais. Maurice Dilasserre.
Il a fallu dit, négocier.
Non, je veux pas. Et à la fin, il y a eu un modus vivendi, il y a eu un accord. Il a dit bon ben écoutez, le Tour de France passera par le Cronan. Vous savez, le Cronan c'est très vite traversé, hein, c'est un petit bourg. Il passera par le Cronan, mais pas de décibels agressifs. La caravane passera sans un bruit. Les coureurs, évidemment, font pas de bruit, sauf le bruit des dérailleurs. Mm-hmm. Mais voilà, ça passera comme ça. Et comme ça, alors, on pense que la Troménie était sauvée. Mais le lendemain, Caramoal dans François fait un titre extraordinaire et il écrit l'Ayatollah Troménie pour le curé.
Ce jour-là, donc, dans ce village, pas la moindre chance qu'Yvette Horner et son accordéon déboulent.
Dites donc, mais je vois que dans un coin, il y a un monsieur et une dame qui sont en plein gringue, comme on dit. C'est Baffert, notre grenoblois, qui s'est rapproché de la Franche-Comté et qui a trouvé Yvette Horner, qui est championne du monde de l'accordéon, Grand Prix du Disque 1950, et qui n'est autre que la nièce de notre très grand ami, le très grand ami de tous les sportifs français, Étienne Matelaire. De quoi parliez-vous tous les deux là ?
Ben, j'étais en train de lui demander ce qu'il avait fait à son bras.
Ah, qu'est-ce que tu as fait à ton bras ?
Je suis tombé en descendant l'obisque, j'ai cassé ma roue avant.
Tu es tombé en descendant l'obisque, mais c'était une blessure pas trop grave.
Non, c'est pas très, très grave.
Mais alors, vous étiez arrivé encore d'autres malheurs comme ça dans le courant du Tour de France ?
J'ai crevé plusieurs fois, puis j'ai attendu des camarades, tout ça, alors...
Bon, alors écoutez, je vais vous jouer un morceau d'accordéon. Que préférez-vous ?
Ben, un morceau de votre composition.
Et ça repart !
Nous étions au début des années 50, 1950, avec Yvette Horner, grand habitué du Tour de France, qui accompagne le Tour et puis qui encourage ou réconforte les coureurs cyclistes. Elle l'a accompagné combien de temps ? J'ai été étonné à sa mort, à Yvette Horner. Beaucoup de gens l'ont salué pour sa participation au Tour de France. C'est dire si ce Tour est dans le cœur des Français, Jean-Paul Olivier.
Oui, elle a fait 11 Tours de France, si mes souvenirs sont bons.
Ouais. Moi, je l'ai vue, elle était... sur le toit du camion conduit par son mari, mais vraiment, mais on avait peur pour elle, parce qu'en plus, il y a, vous savez, on a des problèmes parfois les sueurs quand on a envie de faire pipi, parfois on n'y arrive pas parce qu'il y a du monde tout au long de la route. Eh bien, Yvette Horner, elle, je sais pas si elle a envie de faire pipi ou quoi, mais elle, ce qu'elle avait envie, c'est de jouer, c'est d'avoir, de faire plaisir au public. Et quand il y avait des étapes où il y avait des spectateurs pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, eh bien, elle restait et elle jouait pendant 3, 4 ou 5 heures. Ouais. Donc c'était vraiment incroyable.
Alors, le problème, c'est que elle avait commencé par faire de la publicité pour les vins de France. Et puis l'année suivante ou l'année d'après encore, elle travaillait pour la Suze. Et le directeur commercial de la Suze lui avait dit mais écoutez Yvette, vous pouvez pas faire ça tout le temps parce que vous rendez compte, vous êtes là, vous jouez pendant 4 heures, ensuite vous allez remettre le brassard aux coureurs, etc. Et puis après vous allez faire le spectacle jusqu'à 2 heures du matin, mais c'est impossible de faire ça. C'est impossible. On va vous faire une Yvette Horner en celluloïde. Oui, très bien. Ils font ça. Et puis, au bas du col d'Aspin, dans un Tour de France, donc, ils sortent le bébé en celluloïde et Yvette donc se terre dans la voiture. Et puis très vite dans ce col d'Aspin, les gens se sont aperçus de la supercherie.
Oui.
Ils se sont mis à caillasser donc Yvette Horner. On a remis le bébé en celluloïde dans le coffre et c'est reparti.
Il n'y a pas qu'Yvette Horner que le Tour de France a inspiré. Freddie Mercury aussi, Freddie Mercury du groupe Queen, était de passage à Nice dans les années 70 et c'est en voyant passer le Tour de France devant les fenêtres de son hôtel qu'il a composé Bicycle Race.
Bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like. I say Royce.
You say God.
Give me a choice.
Say Lord.
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to
said Kane.
You said John.
I said Wayne.
Hot dog.
I said Cooler Man. I don't want to be the president of America.
I said Smile.
I said Cheese.
Johnny A.
I said Please.
Income tax.
I said Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is
ice,
yeah.
Malgré tous ces deuils, malgré toutes les innombrables difficultés d'organisation, le Tour de France repartait dès 1919, moins de 7 mois après l'armistice.
Innovation au départ de ce premier Tour de France d'après-guerre, désormais, chaque année, le premier du classement général se verra attribuer un maillot jaune, la foule pouvant ainsi le reconnaître beaucoup plus facilement.
Autre innovation non moins importante, on ne parle plus maintenant du Tour de France, mais du Tour purement et simplement.
Quant à la course elle-même de cette année 1919...
14e étape, Metz-Dunkerque. Eugène Christophe, déjà second du classement final en 1912, et ce jour-là maillot jaune, va remporter la victoire. Il est seul en tête, mais son cadre soudain se brise sur les redoutables pavés du Nord.
Et nous revenons sur ces histoires qui ont marqué le Tour de France avec Jean-Paul Olivier, auteur de Le Tour de France, un beau roman, une belle histoire chez Robert Laffont, et de Daniel Potrat. Daniel Potrat raconte les plus belles histoires du Tour de France aux éditions Mareuil. Daniel Potrat, l'un des premiers coureurs à entrer dans la légende du Tour, on vient d'entendre son nom, hein, c'est Eugène Christophe, dit le vieux Gaulois. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer hein, par la suite, ce coureur. Pourquoi est-il entré dans la légende ?
Il est entré dans la légende parce que il a cassé sa fourche dans la descente du Tourmalet et il a dû faire une douzaine de kilomètres à pied pour aller la réparer lui-même chez un forgeron qui n'avait pas le droit de l'aider. Il a dû passer plus de 4 heures pour arriver à réparer alors qu'il était sur le point de gagner son premier Tour de France. Et ensuite, en 1919, il a encore cassé sa fourche l'avant-dernier jour, mais là, il avait de l'entraînement, comme il m'a dit. Puis comme il était serrurier de métier, il n'a mis 1h10, mais c'était quand même beaucoup trop encore. Et il a dû laisser le maillot jaune et la victoire au Belge Firmin Lambeau. Et puis, il l'a encore cassé une troisième fois, sa fourche décidément. Il aurait dû changer de fabricant ou de. Ouais. Et il est entré dans la légende aussi parce que, d'abord à 15 ans, ou à peu près 15-16 ans, il était en 1903 à Montgeron, comme l'a raconté Jean-Paul tout à l'heure, et il a assisté au départ du premier Tour de France. Il a disputé son premier Tour de France en 1906. Mmh. Et puis, il aurait pu le gagner avant la guerre de 14 et après, mais finalement, il ne l'a jamais gagné, et c'est l'un des trois grands malchanceux de l'histoire du Tour, ouais. Avec René Vietto et Raymond Poulidor. Mais donc, pour revenir à Eugène Christophe, sa légende repose aussi sur les moustaches qu'il avait au début, c'est pour ça qu'on l'avait appelé l'une des raisons pour lesquelles on l'avait appelé le vieux Gaulois. En fait, on l'appelait le vieux Gaulois par la suite parce qu'il était le plus vieux du peloton et il avait coupé ses moustaches depuis longtemps. Mmh. Mais tous les coureurs à ce moment-là avaient des moustaches en guidon de course. Hein. Ouais. Et donc, il a été le 19 juillet 1919, hein, le premier coureur à porter le maillot jaune. Ah oui. Et comme il avait une telle... Oui,
oui ce maillot jaune, en fait, pourquoi il n'était pas là depuis le début ? Pourquoi en 1919 et pourquoi jaune ?
Bah parce que jaune, c'était la couleur du journal Loto, le journal organisateur du Tour de France. Et c'était une idée d'Alphonse Bauger, le commissaire général, en quelque sorte, du Tour de France, qui disait, tiens, c'est un moyen de reconnaître, pour les spectateurs qui étaient de plus en plus nombreux, de reconnaître le leader du classement général. Ouais. Et comme il avait une demi-heure d'avance, Alphonse Bauger lui a donné tout un paquet de maillots jaunes, lui disant, tu les gères, tu changeras tous les jours comme tu veux. Et au départ de la dernière étape, après sa fourche cassée, quand il n'était plus leader, c'est lui qui a donné un maillot à Firmin Lambeau. Et il lui en restait 5 ou 6. Il les a gardés longtemps, il commençait à être mité un peu. Et pendant la guerre de 40, hein, comme il n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il n'y avait pas des moyens d'acheter des vêtements non plus, il a dit à sa femme, tiens, regarde, j'ai retrouvé, il y a 5 ou 6 maillots jaunes là, je peux pas les porter comme ça, tu devrais les faire teindre. Et c'est comme ça que les maillots jaunes ont été teints en gris. Et tout ça, il me l'avait raconté dans les années 60 pour France Inter.
Ouais. Jean-Paul Olivier, vous, l'un de vos coureurs préférés, et vous n'êtes pas le seul, c'est Bernard Hinault. Alors Bernard Hinault vous a marqué, vous a plu particulièrement?
C'est-à-dire que j'ai eu deux coureurs dans ma carrière. J'ai eu, enfin dans ma carrière, même avant, parce que j'ai beaucoup aimé Louison Bobet aussi. Ouais. J'ai aimé Louison Bobet lorsque j'étais adolescent quand même. Hein. Et puis les débuts dans la carrière. Puis ensuite, j'ai eu Bernard Hinault. Bon, Bernard Hinault, bien entendu, je l'ai suivi pendant toute sa carrière, effectivement. Alors, je connaissais ses sautes d'humeur, je connaissais ses attitudes particulières, etc. Donc, j'étais avec lui tout le temps. Ouais. Et j'étais avec lui même autour d'Italie, enfin, des différentes épreuves. Ouais. Et c'était un personnage étrange, ouais. Parce que il commettait de temps en temps des erreurs. Je me souviens d'un Tour d'Italie, par exemple, où il a attaqué à outrance avec son équipe et finalement, il a perdu le maillot rose. Et c'est Contini, un jeune, qui lui a pris le maillot. Et là, bien sûr, tous les tifos, ils criaient « Oh là là, ça y est, Contini va gagner le Tour, Hinault, terminé, au revoir, etc. » Et Hinault disait « Attends demain, le lendemain. » Il a mis tout le monde KO. Il y avait le Monte Campione à gravir. Ça a été extraordinaire. Ça a été un massacre. Mmh. Il était étonnant, quoi. Mmh. Il n'était jamais plus dangereux que lorsque la veille, il avait été battu.
Alors, souvenir marquant d'une arrivée à deux avec Bernard Hinault. Nous étions en 1986.
Lemon qui manipule ses deux dérailleurs. Passant sur le grand plateau et de l'autre côté, ajustant un braquet plus grand, à moins qu'ils terminent tous les deux en se tenant par l'épaule. J'y ai pensé tout à l'heure, je me demande si ça ne va pas se terminer comme ça.
C'est extraordinaire quand même.
Ah, c'est magnifique.
Antonin Magne entre le Duc avait fait 138.
C'est magnifique, oui, Antonin Magne, le Duc l'avait fait déjà. D'autres aussi l'ont fait par la suite, mais pas dans des circonstances aussi exceptionnelles. Et voilà, maintenant que le Tour de France est gagné.
Daniel Cotra, Bernard Hinault, en juillet 1986. Ça va offrir une image qu'on a encore tous en tête. Hein. Ces deux cyclistes qui arrivent en se tenant la main et qui franchissent la ligne d'arrivée ensemble.
Ouais, c'était le « Je t'aime moi non plus », comme je le dis dans l'un des chapitres de mon livre, parce que il y a eu trois personnages dans ces années 80 qui se sont retrouvés dans la même équipe. D'abord, Fignon, Hinault, Lemond. Ensuite, Hinault est parti avec Tapie et il s'est retrouvé contre Fignon et Lemond. Et ensuite, comme il aime bien l'argent, Lemond n'a pas résisté à l'appel de Bernard Tapie et de Bernard Hinault, des deux Bernard, il les a rejoints. Ils se sont retrouvés contre Fignon. Et puis à la fin, il y a eu aussi le duel entre Lemond et Fignon, ouais, qu'on connaît en 1989.
Donc. On connaît les coulisses de cette image où ils arrivent main dans la main. Elle est spontanée, elle a été calculée avant, elle a été préparée.
Ben là, il fallait... D'ailleurs, ils arrivent main dans la main, mais Bernard Hinault s'est arrangé quand même pour mettre une petite roue d'avance et gagner l'étape. Ouais. Il gagnait l'étape, mais il laissait le maillot jaune à Greg Lemond, qui l'avait aidé quelques années auparavant. Donc c'était une belle course d'équipe, c'était une belle image.
Alors des belles courses, des belles images, mais le Tour de France est aussi l'occasion de voir du pays, de voir notre pays.
Montbrun-les-Bains est tout de même classé parmi les 100 plus beaux villages de France. Le château avec ses 4 tours, la forteresse a été rasée puis rebâtie.
Le cimetière, le mémorial américain d'Épinal.
On se contente des ruines du château.
Le cimetière commémore l'implication des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale.
Le château le plus vaste d'Alsace, c'est ce château du Hollandsbourg. Et sa remarquable situation géographique permet tout de même de surveiller la ville.
Voici le château d'Hollande. Jean Giono, l'écrivain, le poète, était familier des lieux. Et famille aussi du comte Charles de Suarez. Et Jean Giono y situe l'une de ses nouvelles, Promenade de la mort.
Jean-Paul Olivier, dans vos œuvres, vous nous avez fait découvrir des choses depuis l'hélicoptère du Tour de France. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on aime cette course, même si on n'aime pas le sport, même si on n'aime pas le vélo. On se prend à regarder cette course pour les paysages, pour découvrir tous les monuments que l'on peut voir à ce moment-là. Quel souvenir vous gardez? Est-ce que vous avez des images précises en tête? Est-ce que le Tour de France vous a fait aussi découvrir à vous des choses que vous ne connaissiez pas sur notre pays?
Évidemment. Évidemment, on peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir. Et du reste, on ne sait rien dans le fond. Moi, ce que j'aimais surtout, et ce que j'ai surtout voulu montrer dans ce livre, c'est ce que je faisais après l'étape. Lorsqu'après l'étape, je gagnais le lieu d'arrivée suivant, il m'arrivait d'aller dans des lieux que j'avais repérés, où étaient enterrés des gens célèbres, où il y avait eu une affaire intéressante, importante, catastrophique, dramatique, etc. Et donc, à ce moment-là, un peu, c'est ça que je raconte, par exemple. Je raconte des tas d'histoires. Quand on passait du côté de Manosque, par exemple, il y avait l'affaire de Minichik. On passait devant la Grande Terre. Mais devant cette Grande Terre, me venait une autre idée. L'idée de Gabriel Domenech, qui était un journaliste du Méridional et qui avait été le dernier journaliste à rester sur place dans l'affaire de Minichik. Il était resté 4 mois, 5 mois de plus que les autres. Et on lui avait dit, il connaissait tout le monde. On lui avait dit, mais écoutez, monsieur Domenech, vous êtes là, vous buvez le pastis avec nous, vous jouez au boule, etc. Il faudrait quand même que vous présentiez, il va y avoir les élections cantonales. Présentez-vous aux élections cantonales. Il a hésité, il ne pensait pas du tout à ça, il se présente aux élections cantonales, c'est contre un communiste pur et dur, blanchi sous le harnais, et puis là, il se présente et il est élu. Et puis, quelques temps plus tard, arrivent les élections législatives, il est contre quand même un ancien ministre de la 4e République, et il passe encore. Et puis on lui dit, mais les éditions Albin Michel lui disent, écrivez votre histoire, écrivez ça. Mmh. Et au moment où il écrit son histoire, au moment où ça va sortir, au moment où c'est sous presse, il y a les élections. Encore. Et là, il est battu. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va écrire l'histoire d'un homme, comment devenir député, et il est battu. Ouais. Et alors à ce moment-là, Albin Michel a une idée fantastique. Il sort le truc avec un bandeau, comment devenir député, et ne pas le rester. Voilà, donc ça c'est une histoire, mais
une des nombreuses histoires de Polo La Science. Merci de nous en avoir fait cadeau d'une. Allez, grand pignon, petit plateau et danseuse, on s'attaque au Mont Ventoux dans un instant. Le temps d'un bivouac sur le Tour de France avec Jean-Paul Olivier et Daniel Potra.
The first in line to
Tied Up Right Now. C'était Parcells sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Le Mont Ventoux est une sorte d'île franchement détachée du massif alpin. Son climat y est tout à fait particulier. En plein été, vous pouvez au sommet subir la canicule et quelques heures après, d'importantes chutes de grêle et même de neige. L'hiver, il peut y faire moins 30 degrés. Du coup, la végétation y est exceptionnelle. Elle est souvent rare, comme ce pavot du Groenland qui est en fleur jusqu'à la fin du mois d'août. On voit ici son bouton et ici, ces graines qui sont en préparation.
Les derniers mètres sont toujours les plus difficiles, mais je crois que le record est détenu par le Ventoux. C'est vraiment une montagne épuisante. Et à gravir le plus léger possible.
Reportage que vous avez réalisé, Jean-Paul Olivier, avec un guide de montagne, Jean-Michel Huette. Parmi les cols mythiques du Tour, il y a ce fameux Mont Ventoux. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter comme précision sur cet endroit qui est effectivement, qui chaque Tour de France marque les étapes?
Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a surtout une conjonction de vent au sommet, dans la partie sommitale, etc., qui font qu'il y a des courants magnétiques et ça provoque des turbulences.
Hein. Et d'où le nom,
il y a beaucoup d'autres choses.
Ouais. Le nom aussi. Ouais. Tous les vents.
Ventoux. Ouais. C'est ouvert à tous les vents.
Ouais.
Est-ce que ces étapes qui font le Tour de France, elles sont inscrites par contrat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas imaginer un Tour de France qui ne passerait pas par le Mont Ventoux, même si on retrace le parcours chaque année?
Oui, ben ça dépend un petit peu du parcours, puis on n'y vient pas tous les ans pour varier les plaisirs, parce qu'il y en a d'autres, des plaisirs, sauf pour les coureurs, comme l'Alpe d'Huez, par exemple.
Ouais.
Mais le Mont Ventoux, on peut pas en parler sans évoquer. Moi, j'ai plein de souvenirs. Quoi. J'étais à France Inter en 67. Hein. J'étais très copain avec Tom Simpson. Je venais d'avoir une caméra et j'étais sur la moto de France Inter, mais j'étais en train de filmer.
Alors, ben
pour mon plaisir.
On va en parler hein, de Tom Simpson. Je vous propose, donc nous sommes en 1967 et c'est effectivement là un drame hein, qui frappe le Tour de France sur le Mont Ventoux.
L'Espagnol Jiménez s'envolant dans l'ascension du Mont Ventoux. Cette image, des millions de téléspectateurs l'ont vu hier après-midi. C'était la 13e étape du Tour de France cycliste. Jiménez confirmait une fois de plus ses étonnantes qualités de grimpeur. À l'arrière, un drame se jouait. Dans une atmosphère étouffante, à 2 km du sommet, un homme zigzague sur la route. Ce coureur, c'est l'Anglais Tom Simpson. Respiration artificielle, masque à oxygène, les techniques de réanimation sont impuissantes. Simpson est toujours dans un état comateux, état qui nécessite une rapide évacuation sur le centre hospitalier d'Avignon. À 17h40, les médecins constataient le décès de Tom Simpson et refusaient le permis d'inhumer.
Daniel Potra, qu'est-ce qu'il est arrivé à Tom Simpson en 1967?
Ben, il faisait chaud, les coureurs avaient soif, ils buvaient n'importe quoi. Ça a été ce que les spectateurs offraient sur le bord de la route. Il y avait le manque d'oxygène aussi en altitude. Et puis il y avait peut-être aussi ce qui circulait dans les pelotons à ce moment-là, les amphétamines. Donc c'est l'ensemble de toutes ces choses qui ont fait que Tom Simpson est parti comme ça. Quoi. Mmh. Et je dis, moi je venais d'acheter une caméra, j'étais sur la moto de France Inter, mais je faisais un film pour moi. Et au départ du Tour à Angers, en passant près de moi, je filmais le départ du peloton. Et parmi les derniers du peloton, il y avait Tom. Et en passant près de moi, il est venu, et comme il le faisait souvent, il est venu me regarder dans la caméra en tirant la langue. Et j'ai dit, tiens, ça va être le fil conducteur. Et j'ai donc filmé Tom partout. Et la dernière fois que je l'ai filmé, c'était au chalet Reynard, 1 kilomètre avant qu'il ne tombe. Ouais. Et il faut dire aussi que si le Tour de France était couru par équipe de marque cette année-là, Tom serait peut-être encore vivant, parce qu'il est tombé plusieurs fois. Et son directeur sportif, qui manquait d'expérience, l'a remis sur le vélo à chaque fois. Mmh. S'il avait été avec Gaston Plot, qui était dans l'équipe Peugeot, son directeur sportif, peut-être que Gaston Plot, qui le connaissait bien, aurait pu anticiper l'état dans lequel était Tom.
Jean-Paul Olivier, la mort de Simpson, ça a fait l'effet d'un électrochoc. On a pris conscience, parce que vous le disiez, hein, il y a certainement il y a eu de l'alcool, mais certainement les amphétamines aussi qui ont joué leur rôle dans ce décès. On prend conscience à ce moment-là que certains coureurs prennent des substances qui sont nocives pour eux, qui peuvent vraiment leur faire du mal.
Ça n'était pas un phénomène étranger en ce qui concerne Simpson. Il avait révélé dans les journaux anglais, notamment, qu'il prenait des substances, etc. Mmh. Ceci et cela.
À cette époque, ça n'était pas interdit, en fait.
Premiers contrôles dans le Tour de France ont eu lieu en 1966.
Oui.
Donc, ça commençait à l'être, c'était pas rigoureux comme
ça. Ça commençait, mais on pouvait enfreindre la loi, vous savez, on pouvait la contourner quelque part. Vous savez, dans les contrôles antidopage de l'époque, antidoping de l'époque, comme on disait, on prenait un certain nombre de substances, mais vous en aviez d'autres qui n'étaient pas contrôlées. Ouais. Donc c'était ça le problème. Et le problème de Simpson, c'est que il allait signer un contrat avec l'équipe Salvarani pour aider Felice Gimondi, pour être avec lui. Et on lui promettait un contrat juteux s'il réalisait un très bon Tour de France. Et là, alors, il avait pris le maximum, quoi. Il fallait à tout prix qu'il se manifeste, il fallait à tout prix qu'il accomplisse des exploits. Or, comme disait Daniel, il était au sein d'une petite équipe, d'une équipe qui n'était pas une équipe Tour de France, mis à part Oban, peut-être, ou un ou deux, ou Denson. Mais c'était une petite équipe, donc il ne pouvait pas se révéler. Et il a fait le maximum, hélas.
Mais il n'était pas le seul à ce moment-là dans le peloton.
Hein. Non, c'est clair.
Puisqu'on aborde cette question du dopage, vous qui êtes des passionnés de ce Tour de France, qui l'avez suivi, à partir de quand vous avez pris conscience de l'importance de cette question qui ternit l'image qui, vous, n'a pas entamé votre passion, mais qui, quand même, ternit l'image de cette course.
Moi, je viens de sortir deux livres, mes mémoires l'année dernière et les plus belles histoires cette année. Je ne dis pas un mot sur le dopage. Je veux l'oublier parce que on a retiré ces 7 Tours de France à Armstrong, mais il y en a d'autres à qui on aurait pu en retirer aussi dans les années antérieures. Il y a eu toujours cette course comme ça. Au début, mais c'était même pas pour tricher parce qu'ils se passaient leur pilule dans le peloton. Mais après, c'est vrai que on n'en parlait pas jusque dans les années 70. Et je dois dire que j'ai été le premier à en parler véritablement en 1977, quand il y a eu une affaire à la veille de l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées à Versailles. On a appris que Zoutemel, Cocagna, je sais plus, une demi-douzaine de coureurs étaient positifs, et puis il y en a d'autres qu'on pensait être positifs qui n'avaient pas été révélés, tout ça si bien que j'ai dit en ouverture du journal de 20h sur TF1, le maillot jaune demain sur les Champs-Élysées ne sera peut-être plus le vainqueur lundi quand on connaîtra les résultats de tous les contrôles. Et l'année d'après, les organisateurs du Tour ont demandé à ce que je ne commande plus le Tour de France.
Ah oui, mais alors ça veut dire que à une époque où c'était tabou et où on n'en parlait pas, vous avez eu envie de le dire, et aujourd'hui où
parce
tout le monde en parle,
plus,
vous ne voulez
non,
plus
non, mais parce que parce qu'il y avait tout n'était pas dit, quoi. Tout n'avait pas été dit, et donc on était quelques-uns à être au courant, à avoir été informés. Mais on n'avait aucune preuve, tout ça. Mais là, il fallait quand même mettre un coup d'arrêt. Ouais. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on n'en a pas parlé. On était, mais il y avait une petite loi du silence, quoi. On était dans un milieu. Finalement, ça se passait pas plus mal. Hein.
Ah, bon, ça se discute, ça va choquer des auditeurs, ce que vous êtes en train de dire.
Jean-Paul Olivier. C'est effectivement ce que dit Daniel, c'est qu'on n'avait pas de preuves. Alors, on risquait la diffamation en permanence. Moi, je me souviens d'un soigneur qui entre dans la chambre d'un coureur avec des seringues sur un plateau. C'est-à-dire, dès qu'il me voit, aussitôt, il recouvre les seringues, donc d'une serviette, etc. Mais, j'aurais pu aller le dire, j'aurais pu dire, voilà ce que j'ai vu. Mais on m'aurait dit, mais monsieur, est-ce que vous avez regardé ce qu'il y avait dans les seringues?
C'est des vitamines.
Oui, mais alors, d'accord, peut-être pour dire on ne pouvait pas dénoncer tant qu'on n'avait pas de preuves formelles. Mais vous, pourquoi ça n'a pas eu d'incidence sur votre goût et votre intérêt pour la compétition de voir qu'il y avait ce verre dans le fruit?
On considérait que tout le monde n'était pas dopé, on considérait que c'était un beau spectacle. On était en fait, nous journalistes, quand même des spectateurs lambda. Parce que vous savez, les spectateurs qui sont là sur les cols, qui regardent passer les coureurs, ça, ils sont émerveillés. Nous, il y avait quand même une part d'émerveillement qui demeurait. Voilà, c'est tout.
Ouais. Allez, on va garder un peu d'émerveillement pour la fin de cette émission.
Beaucoup
d'émerveillement pour la fin de l'émission. Dans un instant, on reprend notre fil de l'histoire du Tour de France. À la folie, c'était Juliette Armanet. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Elsa Béranger. Je suis toujours avec mes deux invités spécialistes du Tour de France, Jean-Paul Olivier, auteur de Le Tour de France, un beau roman, une belle histoire chez Robert Laffont, et Daniel Potrat pour Daniel Potrat raconte les plus belles histoires du Tour de France, paru chez Mareuil Éditions. Alors messieurs, on est en studio, mais il y a deux écrans de télévision dans notre studio, et donc vous découvrez les résultats de l'étape du jour. Évidemment, vous ne pouvez pas vous empêcher de la commenter. Alors, on va en profiter. Les auditeurs vont profiter de vos lumières. Quel avis sur l'étape du jour ?
Ben en fait, j'étais hier dans cette fameuse étape de 65 km entre Luchon et Saint-Lary, ou au-dessus de Saint-Lary. Et Arnaud Démare, eh bien, a profité de cette étape pour faire une bonne séance d'entraînement. Il a été lâché dès le premier kilo, dès le premier rectomètre même. Il a fait 65 km derrière tout le monde. Il a perdu plus d'une demi-heure. Mais il s'est bien entraîné. Il était sans doute aujourd'hui le coureur le plus dispo. Et c'est pour ça qu'il a enfin pu gagner un sprint dans le Tour de France et qu'il a battu un autre Français, Laporte. Voilà, donc Démare, Laporte, ça ne pouvait pas mieux tomber.
Ça vous réjouit, hein, vous, la passion est intacte.
Puis il est en bleu, blanc, rouge et tout ça, quoi, c'est chouette. Ouais. Ouais. Mais c'est la plus belle tragicomédie des temps modernes, le Tour de France, vous savez.
C'est pour ça, comment on explique, je crois que vous vouliez en dire deux mots, comment on explique que ce Tour de France intéresse autant, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que juste après les Jeux Olympiques d'été et le Mondial de football, les gens dans le monde entier regardent le Tour de France.
Oui, mais ils regardent pour une bonne raison. D'abord, c'est que le Tour de France, il repose aussi sur ses racines, sur sa légende, sur tous les grands noms. Il y en a un qu'on n'a pas cité, mais c'est le plus grand de tous, quand même, Eddy Merckx. Ouais. Et d'ailleurs, l'année prochaine, le Tour de France va démarrer de Bruxelles et on célébrera le 50e anniversaire de sa première victoire dans le Tour. Il y en a un autre qu'on n'a pas cité, c'est François Faber. Une des légendes, pour moi, c'est le plus grand de tous au début du siècle, un type phénoménal. Mais donc le Tour de France, la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques, on vient de s'enthousiasmer pour les vertus, l'esprit d'équipe de nos footballeurs champions du monde. On est en train tous les jours de vanter les mérites des champions du Tour de France. On vient d'entrer avec Paris 2024 dans l'ère olympique. Eh bien ces trois événements ont été créés tous les trois plus importants du sport mondial, ont été créés tous les trois par trois Français. Jules Rimet pour le football, Henri Desgranges pour le vélo et le baron Pierre de Coubertin pour les Jeux Olympiques. Et moi, je sais pas ce qu'il y a dans les manuels d'histoire contemporaine, mais je m'adresse à Jean-Michel Blanquer au moment où Laura Flessel est en train de préparer une loi de programmation du sport. Eh bien, si on mettait l'histoire de ces héros-là et de les événements qu'ils ont créés dans les manuels d'histoire, les jeunes, dès l'âge de 7 ou 8 ans, apprendraient toutes les vertus du sport et de l'Olympisme.
Ah, on finit par un joli cocorico. Merci Jean-Paul Olivier et Daniel Potrat. Je signale, je rappelle que le téléphone sonne de Pierre Veil ce soir, fera le bilan du Tour de France 2018. Et puis, évidemment, j'imagine que vous serez sur les Champs-Élysées dès dimanche.
Ah ben, je retourne même dans les Pyrénées demain.
Ah oui, vraiment.
Je vais voir le contre-la-montre, parce que le contre-la-montre, samedi, il va être fabuleux. Parcours très dur.
Très bien.
Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre cette route, je vais couper par là et on se retrouve de l'autre côté.
Demain à 16h, nous verrons comment les contes et légendes voyagent et se transforment au gré des époques et des cultures qu'ils traversent. Et puis à 17h, nous retrouverons Anne Pastor pour un nouveau voyage en terre indigène. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et